Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous vous l'avions annoncé, le week-end des 23-24 novembre ouvre une période très chargée en événements musicaux dans des genres très différents. Il se trouve que parmi ceux-ci, plusieurs ont une dimension à la fois littéraire et religieuse. C'est donc un programme un peu particulier que nous allons vous proposer au cours de cette émission, pour laquelle je suis heureux de recevoir Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Notre trio se fait une joie d'accueillir l'invité d'honneur de ce numéro, Christophe Gristy, directeur artistique du Théâtre du Capitole. Et s'il est à nos côtés aujourd'hui, c'est parce que les représentations de Dialogue des Carmélites, l'opéra de Francis Poulenc, commencent au Capitole. Il y en a 5 jusqu'au 1er décembre. Et nous allons parler avec Christophe Gristy en seconde partie d'émission de cette production et aussi d'une autre parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un week-end littéraire et mystique qui attend les mélomanes. On va garder un peu le mystère, vous en saurez plus tout à l'heure, avant d'aborder la première partie de ce numéro. Je rappelle que notre radio-don arrive à son terme, mais il vous reste encore une heure pour appeler le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, et faire un don à Radio Présence pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer des programmes de qualité. Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site web de la radio, www.radioprésence.com. Merci de votre générosité. Maintenant, nous allons revenir sur l'actualité musicale de la semaine passée. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité de la semaine passée était déjà très dense. Il y a eu plusieurs concerts qui méritent que l'on revienne dessus. Tout d'abord, le premier de la saison des Arts Renaissants, donné jeudi 14 par l'accordéoniste Richard Galliano, accompagné du Prague String Quintet à Saint-Pierre-des-Cuisines, qui affichait complet ce soir-là. Nous y étions tous les deux, Serge Chauzy. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que d'une part, ces 6 musiciens ont été très généreux dans l'effort. Et d'autre part, même si certains trouveront qu'il en fait un peu trop dans le mélange des genres, que Richard Galliano, eh ben, c'est tout de même un sacré musicien.
Ah ben c'est même un virtuose, un véritable virtuose de l'accordéon, c'est incroyable ce qu'il fait avec cet instrument. Le piano à bretelles, ben c'est autre chose avec lui, hein. Avec un concert qui comprenait des œuvres originales pour son instrument, mais pas beaucoup finalement, et puis beaucoup d'adaptations, de transcriptions, y compris d'œuvres classiques, puisqu'on a eu droit à du Bach, à du Mozart, à du Vivaldi et du Granados. Vraiment un concert extrêmement varié, avec le quintet de Prague, donc, qui est un beau quintet à cordes, hein, qui a vraiment accompagné au sens plus qu'un simple accompagnement, quoi, vraiment tout le long du concert, avec des œuvres évidemment, beaucoup d'œuvres de lui-même, oui. De Richard Galliano. Ça a commencé par le Abanerando, qui est un peu connu, et puis d'autres œuvres comme le Concerto Opale, la Valse à Margot. Et puis, il a quand même rendu hommage à deux amis. Il a une amitié très solide. Il a évidemment rendu hommage à Claude Nougaro, qu'il a accompagné. Ils étaient complices, tout à fait, hein. Donc avec son fameux tango pour Claude.
Il a salué les parents d'Hélène Nougaro, la veuve de Claude, qui était
dans la salle. Exactement, voilà. Qui était au premier rang de l'auditorium. Et puis il a également salué, avec une œuvre qu'il lui avait dédiée, Aria, Bernard Soustrot, le trompettiste,
qui était là aussi.
Et puis bon, avec des œuvres tout à fait originales, j'ai beaucoup apprécié cette petite suite française,
oui.
Que je découvrais là.
Ah non, c'est quand même une œuvre assez connue. Enfin, moi,
ouais. Pas de moi alors.
Ouais, ouais.
Donc, une œuvre consistante, hein, qui d'une certaine durée.
Oui, oui.
Avec beaucoup de virtuosité à l'accordéon, et puis même accompagné par des sifflets, quelquefois. Mais des sifflets de lui-même.
Oui, hein, se siffle tout ça.
Oui, exactement. Bon. Vraiment, un concert très réjouissant. C'était le premier concert de la saison, et toutes les saisons des Arts Renaissants hébergent un concert particulier, hein, qui sort un peu du classique habituel, musique ancienne ou musique romantique. Donc c'était tout à fait réjouissant, et ça a eu un grand succès. au point qu'il y a eu même des bis, donc il y a eu, évidemment, ça ne sera pas étonné, le fameux Oblivion de Piazzolla. Et puis, il a voulu rendre hommage à Michel Legrand.
Oui.
Il a introduit même des œuvres de Michel Legrand qui n'étaient pas prévues au programme. Et il a terminé avec ça, avec la fameuse chanson des parapluies de Cherbourg, donc qui terminait la
Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Et puis, il y a eu la valse des Lilas. Non, je ne vous parlais pas, Serge. quoique. Il y a eu la valse des Lilas, qui est une chanson, c'est très ancien. Ça de Michel Legrand, c'est le jeune Michel Legrand, je crois qu'elle est 55, sur un texte d'Eddy Marnay. Et puis il y a eu une transcription de la musique du film Le Messager, le film de Joseph Losey, qui avait été primé à Cannes en son temps, je crois que c'est en 71. Ça, j'ai pas trop adhéré d'ailleurs, moi, la transcription de Legrand. Oui. Alors il l'a fait pour une raison, effectivement, c'était pas prévu, mais c'est parce qu'il y a un CD qui va apparaître.
Voilà, exactement.
Chanson, musique de film de Michel Legrand, arrangée par Richard Galliano. Voilà, en tout cas, c'était un très bon moment. Bon, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a été tout le temps debout avec cet accordéon qui pèse une quinzaine de kilos.
Oui, il a dit que ça...
Il a près de 70 ans quand même.
Oui, mais il a dit que ça pesait à peu près l'équivalent de 40 violons.
Oui, oui.
C'est pas mal. Hein.
Il a dit ça quand il a joué le concerto pour violon de.
Je vais à l'accordéon, le concerto pour violon de Bach, le BWV 1041.
Alors je sais que vous avez beaucoup apprécié son arrangement du concerto pour clarinette de Mozart.
Ah oui. Alors là, il y avait vraiment. Comment dire, une espèce d'évocation de la clarinette l'accordéon.
Ah oui, c'est étonnant.
Qui était impressionnante. Vraiment, on avait l'impression par moment d'entendre une clarinette, effectivement. Donc ça, c'était très très beau. Très très bien accompagné par le quintet. Donc, un très beau moment, oui.
Voilà, Richard Galliano, artiste, musicien inclassable. Petit intermède pour refaire un rapide rappel aux dons à nos auditeurs. Le Radio Don est toujours en cours à Radio Présence et nous avons besoin de votre soutien pour assurer son fonctionnement et vous offrir des émissions telles que Mélomanie. Pour faire vos promesses de dons, un seul numéro, le 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Et vous pouvez aussi faire vos dons en ligne sur le site internet de la radio. www.radioprésence.com. Eh bien, il n'y avait que l'embarras du choix pour vous faire écouter un des nombreux morceaux qu'ont joué Richard Galliano et son quintet à cordes à Saint-Pierre-des-Cuisines la semaine dernière. Par exemple, ce petit extrait du concerto pour clarinette de Mozart, arrangé par les bons soins de l'accordéoniste, une version qui a beaucoup plu à Serge Chosy. Extrait du concerto pour clarinette de Mozart, arrangé et interprété par Richard Galliano, accompagné de son quintet à cordes. Le grand accordéoniste a inauguré de très belle manière la saison des Arts Renaissants, dont le prochain rendez-vous est programmé mardi 10 décembre avec l'ensemble Giardino Armonico qui va se produire à l'église Saint-Jérôme à 20h30. Nous allons maintenant revenir sur le concert Plaisir de Gorge et autres joyeux instruments que les Sacboutiers et l'ensemble Clément Jeannequin ont donné dimanche au Théâtre du Capitole. Nous avions reçu la semaine dernière Jean-Pierre Canillac, le co-directeur artistique des Sacboutiers, pour vous présenter le programme de ce concert. Là encore, nous y étions tous les deux, Serge, et nous n'avons pas été déçus parce que nous avons entendu les mots de Rabelais alliés aux musiques de la Renaissance, celles des maîtres de la polyphonie en France à l'époque. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce double hommage rendu à la fois à l'auteur de Gargantua et à ses contemporains musiciens ?
Bon, je ne suis peut-être pas complètement objectif, mais j'ai vraiment apprécié. Pour la troisième fois que je voyais ce programme,
un
nouveau
programme. Oui, parce qu'il a été créé il y a 10 ans.
Oui. Mais bon, c'est un concert lecture en quelque sorte, avec des textes, donc évidemment de Rabelais, mais également de Louise Labbé, de Dubellay, de Clément Marot. Donc, il y a des textes, mais suffisamment courts pour que ça n'interrompe pas le discours musical, en quelque sorte, hein, de ce programme, qui est basé sur le fameux recueil du moine médecin qui était Rabelais et qui s'appelle « Grande et inévitable chronique de l'énorme géant Gargantua ». Déjà, le titre dit ce qu'il veut dire. Et donc, oui, ça éclate de vitalité, à la fois de paillardie et même de scatologie, n'ayons pas peur des mots, et aussi bien les sacs boutiques que l'ensemble Clément Jeannequin ne se sont pas privés d'aborder tous les thèmes en question. Alors il faut rappeler quand même que le récitant était le comédien Pierre Margot, donc
il... très très bon.
Ah oui, excellent, donc vraiment.
Alors, Pierre Margot, j'ai regardé, il a eu le prix Daniel Sorano, j'ai vu en 2002.
Ah oui,
oui,
très bien.
Donc, je pensais qu'il était de Toulouse, mais en fait il est de Paris, mais il a joué à Toulouse, notamment avec Le Grenier à l'époque de Maurice Sarrazin.
Exactement, voilà. Oui.
Ça il avait fait, entre autres, l'histoire du soldat avec eux.
Et puis il faut quand même aussi indiquer que les chanteurs de l'ensemble, c'est d'abord son directeur qui est Dominique Viss, qui est contre-ténor, puis le ténor Hugues Primard, le baryton Vincent Bouchot et la basse Renaud Delegue. Et chacun a vraiment un rôle important à tenir, à côté des instruments qui, bon, brodent. Alors il y a quelques pièces instrumentales, mais la plupart sont chantées, évidemment, avec les Jeannequins.
Oui, alors je vais dire une chose, justement, c'est que ces polyphonies de la Renaissance, il ne faut pas s'y tromper, c'est très difficile à chanter. Hein.
Absolument.
Très, très difficile à chanter.
À chanter, à jouer, et puis on a pu constater à quel point les instruments ornementaient les mélodies originales. Hein. Ben, c'était la tradition. Toutes les notes n'étaient pas écrites. Hein. C'était à l'interprète à faire ce qu'on appelait les diminutions dans les partitions. Et puis, il y a eu quand même deux tubes des Jeannequins qui étaient La Chasse et La Guerre. Alors là, bon, ils se déboutonnent complètement, puisque dans La Chasse, on entend les aboiements des chiens. Dans la Guerre, il y a des bruits d'arquebuses. C'est vraiment quelque chose de très réjouissant. Mais il n'y a pas que ça. Hein, il y a eu quand même deux pièces extrêmement émouvantes, notamment La Nuit froide et sombre de Roland de Lassus et le Je vis, je meurs
de Louise Labbé.
D'après Louise Labbé, oui, et vraiment, c'est de Guillaume Costelet. Vraiment émouvant, hein. Il y avait une certaine émotion qui passait au milieu des explosions de joie. Et tout démarrait déjà avec l'annonce de la naissance de Gargantua, le fils de Gargamel, Gargamel qui avait porté son enfant 11 mois. Et puis, alors devant le succès, parce qu'ils ont vraiment été très applaudis, ils ont donné un bis. Alors, complètement différent, puisqu'il s'agissait d'une chanson parisienne de la fin du 19e siècle.
Un peu dans le même esprit, quoi.
Dans le même esprit, mais une musique tout à fait différente. Très très bien, vraiment un beau moment.
Alors, puisqu'on a le directeur du Théâtre du Capitole, le directeur artistique à nos côtés, on va parler des sacs boutiers parce qu'il y a eu ce concert, donc Plaisir de gorge et Joyeux instruments, mais il va y en avoir d'autres. Il y a une saison vraiment des sacs boutiers au Théâtre du Capitole. Comment ça s'est fait? Ça, c'est vous qui leur avez proposé de venir se produire dans votre établissement?
On s'est rencontrés, c'est une volonté commune. Je suis absolument ravi de les accueillir. Il y a en effet 3 concerts cette année au Théâtre du Capitole et puis ils participent aussi à la création que nous donnons cette semaine, L'Annonce est à Marie de Marc Bleuze. Et bon, c'est un ensemble fondateur de la musique ancienne hein, il y a quelques décennies, ils jouent dans le monde entier, c'est des gens qui sont à un très très haut niveau, et puis bon, justement notre collaboration permet quand même d'avoir disons de grands projets, comme l'accueil de l'ensemble Clément Jeannequin. Le prochain concert sera en compagnie de Jordi Savall, donc voilà, nous sommes sur les sommets et puis on a de beaux projets pour la suite.
Effectivement, concert avec Hesperion 21 et Jordi Savall le 17 avril, on va écouter quand même les sacs boutiers, donc extrait du programme Plaisir de gorge et Joyeux instruments. Il s'agit du réjouissant « Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin », pièce de Loïse Compère, précédée d'un texte de Rabelais, « Comment étaient réglés les télémites ?»«
Comment étaient réglés les télémites à leur manière de vivre ?»« Toute leur vie était employée, non par louis, statuts ou règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre. » Se lever du lit quand bon leur semblait, buvait, mangeait, travaillait, dormait quand le désir leur venait. Nul ne les éveillait, nul ne les parforçait ni à boire, ni à manger, ni à faire autre chose quelconque. Ainsi l'avait établi Gargantua. à leur règle n'était que cette clause. Fais ce que voudras.
Nous sommes de l'ordre, nous sommes de l'ordre, nous sommes de l'ordre,
Nous sommes de l'ordre de Saint-Babouin, pièce de Loïse Compère, interprétée par les Sacboutiers et l'ensemble Clément Jeannequin, l'œuvre qui a conclu Plaisir de gorge et joyeux instruments dimanche au théâtre du Capitole, où les Sacboutiers seront de nouveau en concert le 17 avril avec Jordi Savall pour un programme très hispanisant, mais pas seulement, intitulé « Ombres et lumières au temps de Charles Quint ». Nouvel appel aux dons à nos auditeurs dans cette émission. Je le redis, Radio Présence a besoin de votre générosité, de votre soutien pour financer son fonctionnement et vous proposer des programmes de qualité dans tous les domaines. Je vous invite donc à faire vos promesses de dons en appelant le 05 62 48 63 00, je répète 05 62 48 63 00, ou si vous préférez, vous pouvez faire un don en ligne sur le site internet de la radio www.radioprésence.com. Dernier concert dont nous voulions vous parler, le récital qu'a donné le grand pianiste russe Grigori Sokolov à la Lograin, mardi à 20h. C'était le deuxième rendez-vous de la saison des grands interprètes avec l'un de ses invités les plus réguliers, et ce depuis de longues années maintenant. Il a joué un programme Mozart et Brahms et Serge Chosy, mais aussi Christophe Christie, ont eu la chance d'y assister. Alors, est-ce que Sokolov, dont certains spécialistes n'hésitent pas à dire qu'il serait le plus grand pianiste en activité, a été à la hauteur de sa réputation? Serge.
Oh bah oui, oui, oui. Sokolov, c'est un monument historique. Hein. C'est un grand pianiste qui a quand même remporté le premier prix du concours Tchaïkovski 1966. Hein. Et c'était avec un jury qui était quand même sous la direction d'Émile Guilels, qui était aussi le grand pianiste russe du XXe siècle.
Il y en a eu beaucoup, des grands pianistes russes.
Oui, oui, il y en a beaucoup, oui. Et donc, bon, il est revenu avec un programme. Alors, vous savez, les programmes musicaux de Sokolov sont toujours très particuliers. Ce sont des programmes qui mijotent très longtemps à l'avance et qu'il, en fait, ne dévoile qu'au dernier moment. Alors, ça fait un peu trembler les organisateurs, notamment pour les grands interprètes, mais ils ne le savent qu'une ou deux semaines avant, donc il n'y a pas le choix, hein, ils proposent ça ou rien. Et effectivement, ça marche très bien chaque fois parce qu'il y a toujours un fil conducteur. Alors là, a priori, on pouvait avoir des doutes sur un fil conducteur qui relie Mozart et Brahms. Parce que voilà quand même deux compositeurs dont les caractéristiques ne sont pas vraiment identiques. Hein. Eh bien, il est arrivé à en faire une espèce de dialogue. Alors, il faut dire que la première partie intégralement est consacrée à Mozart et la deuxième partie à Brahms. Donc, entre les deux, il y a une petite respiration. Et puis, une particularité, il a joué chaque partie du concert de manière continue, sans arrêt, c'est-à-dire qu'il a enchaîné directement. Par exemple, la première pièce de la soirée était donc de Mozart et c'était un prélude et fugue que je dois avouer je ne connaissais pas. C'est complètement sidérant. On avait l'impression d'entendre du Sturm und Drang, une musique de révolution. Incroyable. Et il a enchaîné ça avec la fameuse sonate numéro 11. Alors celle-là, elle est bien connue, puisque c'est celle qui s'achève par la fameuse marche turque. Donc, pas de problème.
À la turca.
À la turca. Mais alors, il joue ça avec son style à lui particulier. Je comprends qu'on puisse ne pas pénétrer dans ce monde-là, mais quand on arrive à y pénétrer, c'est fascinant. Par exemple, l'entrée de cette marche turque, il entre très doucement, très piano presque. Et puis ça s'amplifie jusqu'au délire à la fin. Donc vraiment, il a une personnalité tout à fait impressionnante. Et donc c'était étonnant comme succession. Alors l'épisode de Mozart s'achevait aussi sur une œuvre plus connue, le troisième rondo, dans lequel c'est ce qui a fait dire à certains que dans la musique de Mozart, il y a souvent le sourire à travers les larmes. C'est un peu ça qui s'est passé là. Il a joué ça comme une confidence, mais qui allait jusqu'à la tragédie. Hein. Donc c'était vraiment extrêmement touchant, vraiment très très beau. Et puis alors, la deuxième partie, c'était Brahms. Et il a joué les deux derniers opus pour piano de Brahms, l'opus 118 et l'opus 119, qui sont des œuvres un peu automnales, hein, des œuvres de méditation, mais avec aussi quelques vigueurs. Et là aussi, il les a joués dans la continuité, sans interruption, ni entre les six pièces de l'opus 118, ni entre les quatre de l'opus 119, mais non plus entre les deux opus. Hein, donc il a joué ça intégralement. Et c'était très fort, hein, vraiment. Alors là, on est plus habitué à ce style-là dans Brahms que dans Mozart. Mozart était plus surprenant. Hein, mais vraiment, quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, avec une succession et une alternance des atmosphères d'une pièce à l'autre, qu'il savait mener, vraiment. Hein. Et puis, quand même, il faut dire que Grigori Sokolov est d'une générosité incroyable, puisque à la fin de ces deux parties, qui étaient consistantes et longues, hein, eh bien, il y a eu une troisième partie occupé par 6 bis.
Ben, comme à chaque fois.
À chaque fois, il fait ça, voilà. Tant qu'on l'applaudit, ben, il joue. Vous voulez que je joue, je joue.
Il n'y a pas besoin de pousser beaucoup. Hein.
Ah non. Et puis alors, c'est amusant parce que son entrée sur scène, chaque fois, obéit à un rituel toujours le même.
Oui.
Avec deux saluts, un vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et puis, il se remet au piano. Et...
Alors, Christophe Gressier, vous qui étiez présent également, est-ce que ce concert était à votre goût? Est-ce que vous êtes assez fan de ce que fait Sokolov?
Oh oui, absolument. C'est un des très grands pianistes de notre temps, ça c'est très clair. Il n'y a pas de titre pour moi du plus grand pianiste, ce serait vraiment dommage pour les autres.
Oui.
Ce qui est merveilleux avec ces personnes qui ont une carrière très longue, c'est qu'au bout de quelques décennies de piano, ils enlèvent tout l'accessoire et il ne reste que l'essentiel. Et l'essentiel est aussi d'une intensité. Moins il y a d'effets, plus il y a d'intensité. Donc ça c'est le mystère des grands comme Elisabeth Lanskaya, qui a à peu près le même parcours que lui. Et ce sont des gens qui nous donnent musique en feu, parce que c'est d'une telle intensité est tellement, il est tellement pur et tellement ardent à la fois, ça c'est fascinant. Donc on a la chance de recevoir la musique de gens qui ont pénétré des régions quand même très particulières de la musique.
Intensité, flamboyance qui contraste avec l'austérité que peut dégager le personnage.
Oui. Mais qu'il ne dégage qu'en scène. Hein. Il se trouve que je l'ai rencontré après. Il est très avenant, très souriant, très...
Comme le sont souvent les Russes dans la vie. Hein.
Oui. C'est incroyable. Il y a deux personnages en lui, vraiment.
Il paraît qu'il est très très drôle. Il m'a dit que c'était quelqu'un qui avait énormément d'humour, notamment d'autodérision. Alors, comme c'est toujours un privilège, un grand moment d'assister à un récital de Grigori Sokolov lorsqu'on aime le piano, on va encore l'écouter quelques instants dans une interprétation d'une des pièces qu'il a jouées mardi à la Halle au Grain, la première du Klavierstück opus 118 de Johannes Brahms.
Thank you.
La pièce qui ouvre le Klavierstück opus 118 de Johannes Brahms, joué par Grigori Sokolov, avec lequel nous terminons cette première partie de Mélomanie, alors que le radiodon se poursuit et que nous attendons vos appels et vos promesses de dons au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, vous pouvez tout aussi bien soutenir notre radio en faisant un don en ligne sur le site www.radioprésence.com. Nous comptons beaucoup sur votre générosité. On va reprendre le fil de cette émission dans quelques secondes en retrouvant Christophe Gresty pour évoquer la production de Dialogue des Carmélites, le chef-d'œuvre de Francis Poulenc au Théâtre du Capitole. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
La seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et donc avec l'invité de ce numéro, Christophe Gresty, le directeur artistique du Théâtre du Capitole, où est programmé jusqu'au 1er décembre Dialogue des Carmélites, l'opéra de Francis Poulenc, d'après l'œuvre de Georges Bernanos, 5 représentations pour découvrir cette nouvelle production dans la mise en scène d'Olivier Py. Nous allons vous en dire plus dans quelques instants parce que je vais d'abord donner la parole à Thibaut Dautuil, le directeur de Radio Présence qui vient de nous rejoindre, celui grâce à qui j'ai le plaisir de produire et animer cette émission. Je le rappelais il y a une minute, c'est le Radiodon et vous vouliez échanger quelques mots avec Christophe Gresty et nos autres invités.
Oui.
Christophe Gresty qui nous fait souvent l'honneur de venir dans nos studios.
Oui, merci beaucoup Eric de m'accueillir sur votre plateau. En fait, ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner une partition à jouer à tous les quatre, parce que vous êtes déjà un quatuor qui a une fine habitude du jeu ensemble, et je suis certain que vous saurez l'interpréter dès le premier accord. Donc le titre de la pièce, si vous voulez bien, c'est Radiodon. La base harmonique, elle est assurée par Eric, parce que sans lui, il n'y a pas d'émission. Donc Eric, deux mots sur la pièce Radiodon. Est-ce que vous aimez cette partition?
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup l'écouter, la réécouter.
La réécouter, n'est-ce pas?
Envoyez la partition.
Envoyez la partition. Le chant du violon est tenu aujourd'hui par Christophe Gresty. C'est lui qu'on entend le plus, c'est normal, c'est la star, c'est l'invité. Un mot de soutien, Monsieur Gresty.
Écoutez, je suis toujours merveilleusement reçu à Radio Présence, donc j'espère que les auditeurs vont être généreux avec vous, comme j'espère qu'ils le seront avec nous aussi.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que vous venez ici, c'est parce que vous venez présenter une saison.
Absolument.
C'est parce que voilà, c'est
absolument
tout à fait. Et au milieu de l'harmonie, on a les deux complices, Robert et Serge. Vous aimez cette émission, n'est-ce pas, Robert et Serge? Vous êtes des grands fidèles.
Non, pas du tout. Moi, je viens ici contraint
et
forcé.
Et en train dans les pieds.
Chacun le sait,
dans les pieds.
Mais toujours avec un tel plaisir. Mais ce que je voudrais dire, bien sûr, je plaisante, mais je voudrais quand même dire que c'est remarquable, Thibaut, que vous ayez initié avec Eric, mais c'est vrai, vous avez pu le faire parce que vous aviez un Eric sous la main. Hein,
Oui, sans la base harmonique, il n'y a rien.
Voilà, de faire cette émission qui est tout à fait originale dans le PAF, ce qu'on pourrait appeler le PAF local, hein, et c'est-à-dire qui donne la parole à des personnes qui parlent de la musique classique.
Oui.
Voilà, qui en parlent non seulement pour présenter, mais également pour commenter ce qui s'est passé. Et ça, je pense que dans l'environnement local, c'est unique et bravo de faire
et
ça.
C'est très précieux.
Et il faut vraiment, vraiment soutenir ce genre d'émission. Bravo Thibaut.
Merci Serge.
Oui, alors je ne sais pas si je suis le violoncelle ou le contrebasse, mais je confirme tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Robert. Et donc, c'est grâce à cette émission qu'on peut diffuser la musique dans la région et pas seulement dans la région.
Mm-hmm.
Je voudrais vous apporter une petite information
amusante.
Il se trouve que j'ai un ami brésilien qui est professeur d'histoire de l'art et qui m'a envoyé un message récemment parce qu'il avait écouté Mélomanie au Brésil.
Ça.
Et donc, il a beaucoup apprécié et il a commenté ce qu'il a entendu au cours de l'émission. Donc, ça n'est pas qu'une émission régionale, c'est une émission internationale.
Mais la qualité des acteurs me fait dire qu'effectivement, chacune des interprétations de Quatuor mérite largement de dépasser nos frontières. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Christophe Gresty, d'être venu aujourd'hui. Je rappelle une dernière fois le numéro de téléphone. C'est la toute fin de la semaine. On est vendredi soir. Ça y est, c'est la nuit. Bientôt, les lumières vont s'éteindre. Mais voilà, il vous reste quelques instants. Appelez maintenant le 05 62 48 63 00. Merci beaucoup. Et bonne fin d'émission.
Merci beaucoup Thibaut. Retour à l'actualité musicale. Et l'actualité, c'est Dialogue des Carmélites au Théâtre du Capitole jusqu'au 1er décembre. L'opéra de Francis Poulenc dans la mise en scène d'Olivier Py. Christophe Gresty, je ne vais pas vous demander si vous rêviez de le programmer depuis votre arrivée à la direction du Théâtre du Capitole, parce que la réponse me semble évidente. Oui. Mais je suis curieux de savoir où vous placez cette œuvre dans votre petit panthéon lyrique personnel.
Elle en fait partie, de toute façon, ça en effet, du Panthéon. Et c'est un ouvrage avec lequel j'ai un rapport extrêmement intime, et ancien en plus. Mais je pense que dans mes chocs de jeune mélomane, ça a été un choc extrêmement fort. C'est sans doute l'œuvre que je préfère dans tout l'œuvre de Francis Poulenc, qui a des mélodies extraordinaires. Mais c'est vrai que le Dialogue des Carmélites, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est Olivier Py dit que c'est le plus bel opéra du XXe siècle. Je pense qu'il a raison. En tout cas, c'est un
ça peut se défendre, en tout cas.
Ça peut se défendre, c'est un des quelques-uns, en tout cas. Parce que là, il y a à la fois le texte de Bernanos, qui est aussi un des écrivains évidemment que j'aime passionnément, et cette musique incroyable. Et j'ai aimé la musique grâce à ce genre d'œuvres qui sont tellement fortes, qui vous apportent tellement. C'est quand même une œuvre très particulière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et là j'ai beaucoup de témoignages avec la première qui arrive, de gens qui m'appellent ou qui m'écrivent pour me dire c'est un des opéras qui accompagne ma vie, c'est une œuvre qui est très importante pour moi. Bah, il n'y a pas énormément d'œuvres dont on peut dire ça. Pour moi, c'est aussi important que le Tristan de Wagner. C'est aussi important que le Don Carlo de Verdi, dont il y a pas mal d'ailleurs de choses qui s'inspirent. C'est aussi important que Péléas et Mélisande. Donc voilà, c'est vraiment une des œuvres sans doute les plus fortes du répertoire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Robert Pénavert, vous qui connaissez tous les opéras du monde?
Premièrement, c'est pas vrai, mais il faut dire la vérité. Radio Présence, on dit toujours la vérité.
Pas de fausse modestie.
Voilà. Donc, alors je vais vous faire hurler certainement, mais c'est un opéra qui m'impressionne, qui m'interpelle et qui m'accompagne, comme disait Christophe Christy, beaucoup plus que Péléas. C'est quelque chose qui me traverse davantage. Donc pour moi, effectivement, je ne suis pas très loin de le mettre, mais je ne peux pas le mettre au sommet parce que je ne connais pas toute la production lyrique du XXe siècle, mais dans le peu que je connais...
Parmi ceux que vous connaissez.
Voilà, c'est certainement le sommet.
Alors, il faut qu'on rappelle l'argument quand même de cet opéra et le contexte dans lequel il a été créé. Vous pouvez peut-être le faire, Christophe Gresti, vous serez bien placé pour ça.
Je le dis tout de suite, ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Dialogue des Carmélites, c'est que ça dépasse largement l'histoire qu'on nous raconte. L'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire des religieuses de Compiègne qui ont été guillotinées pendant la Révolution. Et en fait, cette histoire est passée par un certain nombre d'étapes. D'abord, il y a eu un roman d'une romancière allemande qui s'appelle Gertrude von Lefort, qui a repris cette histoire à son compte.
La dernière à l'échafaud.
En inventant le personnage de Blanche de la Force, qui est, là pour le coup, un personnage autobiographique, hein, Gertrude von Lefort, Blanche de la Force. Et elle a inventé, après, évidemment, tous les personnages qui sont autour d'elle. Et Bernanos a adapté ce roman pour le cinéma, le théâtre, et Francis Poulenc s'en a emparé. Une fois qu'il l'a vu au théâtre, s'en a emparé pour en faire un opéra. Donc, c'est un groupe de religieuses qui sont condamnées à mort par les révolutionnaires. Et se jouent entre elles ces dialogues, justement. Elles se disent entre elles des choses absolument surnaturelles et d'une simplicité absolue. C'est ça le mystère de cette œuvre, c'est de nous transporter à des hauteurs et à des profondeurs d'âme et de connaissance de la vie et de ce que c'est que l'existence, tout en nous disant des choses d'une simplicité absolue. C'est-à-dire que vraiment, c'est très mystérieux pour moi. On pourrait l'appeler ça mystère des Carmélites parce que c'est à la fois le plus complexe sur l'âme humaine et le plus simplement dit du monde.
Et ça nous confronte à ce à quoi nous sommes tous confrontés, la mort et la peur de la mort.
Et la vie, hein. Alors, la peur de la vie.
La peur de la vie, oui, parce que le personnage de Blanche de la Force, effectivement, entre dans les ordres parce qu'il est très angoissé de sa confrontation avec le monde. Et il va en quelque sorte s'enfermer. Et puis, bon, il arrive ce qu'il arrive, il va falloir affronter la mort. Alors, je vais rappeler quand même, ce qui est très étonnant dans le contexte de cette œuvre, c'est que Bernanos, lorsqu'il s'empare de la nouvelle de Gertrude von Lefort, est lui-même mourant ou quasi mourant. Le cancer qui va l'emporter, c'est quelques mois après. Donc, lui-même est confronté à la mort. Lorsque Poulenc s'empare de l'œuvre de Bernanos pour en faire le livret de son opéra, son ami lui-même est très malade. Donc voilà, tous ceux qui se sont approchés de cette œuvre, c'est ça aussi qui ajoute encore un peu plus au mystère qui l'entoure.
Oui, et tout en dégageant, je dois dire, une force vitale absolument incroyable. C'est pas du tout une œuvre sinistre. C'est une œuvre terrible et en même temps avec une force vitale incroyable. Un souffle. Il y a peu d'œuvres du répertoire qui ont ce souffle lyrique, ce souffle vraiment gigantesque jusqu'à la fin de l'opéra qui est une chose incroyable. C'est une œuvre vraiment exceptionnelle.
Et oui, c'est Blanche de la Force et la force et la force de l'espérance. Alors vous, Robert Pénavert, vous avez assisté en 2013 à la création, donc de la production d'Olivier Py, la mise en scène, d'Olivier Py.
C'était la création.
C'était vraiment, vous étiez la première.
Oui, tout à fait.
Au Théâtre des Champs-Élysées.
Et je dois dire que cela fait partie de mes grands souvenirs lyriques. Jamais on ne peut oublier une soirée pareille. D'abord la distribution, mais à ce titre-là, je crois pouvoir dire, mais Christophe Grissy en parlera davantage, que la distribution que affiche le Théâtre du Capitole n'a rien à envier à celle qui était... Et franchement, on a senti tout le long de la soirée qu'il se passait quelque chose. Et à la fin, lorsque la voix de Blanche s'est éteinte pour la raison que chacun sait, il y a eu un moment surréaliste, c'est-à-dire... les gens étaient tellement émus qu'ils se sont dit c'est un moment qu'il faut essayer de prolonger.
Oui, de conserver, de garder.
Et, mais ça a duré plus d'une minute. Et c'est long, une minute, c'est très long. Et après, ça a été demi-heure d'ovation. Et lorsque Olivier Py est venu saluer, la salle s'est levée. Mais vraiment, il y a fait une ovation debout extraordinaire à laquelle, je ne sais pas s'il s'y attendait, je ne sais pas, mais peu importe. Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'Olivier Py, parfois, est un peu discuté dans ses productions par le public. Voilà. Mais là, alors là, ça a été à l'unanimité des applaudissements qui n'en finissaient plus. Alors ces applaudissements allaient évidemment à la production, bien sûr, mais également à l'orchestre, au chef, au chanteur, etc. Et lorsque, je ne sais pas, Christian, si vous en souvenez, mais il y a quelques années, 3-4 ans à peu près, vous m'aviez dit, moi, si jamais un jour, j'aimerais amener dans ma valise cette production de Dialogue des Carmélites. Voilà. Et bon, évidemment, j'ai arrivé, et puis, comme dit le proverbe, et Christophe Bessy l'a fait. Voilà. Je pense que les Toulousains ne se rendent pas compte de la chance qu'ils vont avoir d'avoir cette production au Théâtre du Capitole.
Mais nous sommes là pour leur en faire prendre conscience, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, je voulais vous poser la question à tous les deux. En quoi la mise en scène d'Olivier Py magnifie-t-elle encore cette œuvre qui est déjà immense en elle-même ?
Eh bien, c'est qu'elle résout, justement, elle se met à ce même niveau de profondeur et de simplicité. Olivier Py travaille avec un des plus grands scénographes au monde, vraiment, un génie de la scénographie, qui s'appelle Pierre-André Vetz, qui est un personnage autant à part qu'Olivier Py peut l'être, et c'est un magicien de la scène. Je souhaite vraiment leur rendre hommage, parce que c'est une reprise d'un spectacle qui est déjà à Bruxelles, à Bologne, et ils ont été présents quasiment pendant toutes les répétitions depuis un mois. Et ils devaient simplement passer, ils se sont sentis très bien au Capitole, ils ont adoré la distribution et ils sont restés vraiment pendant tout le mois. Et donc ce sérieux, cette conscience de tels artistes, moi je trouve ça admirable. Évidemment, les chanteurs sont tous portés par leur présence. Pierre-André Vetz, qui est très très important dans cette histoire, et Olivier Py, ce sont vraiment des gens exceptionnels. Et voilà, ils arrivent parce qu'ils adorent ça. Vous savez, je dis ça, c'est pas en fait une banalité. On peut dire que tous les metteurs en scène qui aujourd'hui circulent dans le monde entier ne sont pas fous des œuvres qu'ils mettent en scène. Et eux, ce sont des passionnés de théâtre, de musique, ce sont des passionnés de chant. Il n'y en a pas tant que ça, des artistes comme ça, et qui aiment autant ce qu'ils font, et qui se défoncent vraiment pour ce qu'ils font, pour donner le maximum. Donc ça, c'est rare, et il faut le souligner.
Oui, puis je voulais dire une chose concernant Olivier Py, c'est qu'il est souvent un peu décrié, le personnage, mais lorsqu'il prend en main du Claudel ou du Bernardo Spoulenc, là, il met vraiment beaucoup de lui-même. C'est pas chiqué du tout. Hein. Non, non. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, oui. Vous, Robert.
Non, parce que je pense qu'également, sur le plan religieux, il est interpellé.
Absolument.
Voilà.
Non, mais il s'en est jamais caché. Oui. Je le redis encore une fois, je crois que c'est très sincère et très profond.
Ouais. Ah oui, bien sûr.
Mais vous savez, Olivier Py, c'est un... Il y a tellement d'artistes qui sont aujourd'hui d'excellents artistes, mais qui finalement donc, ont une carrière très construite. J'aime les échecs d'Olivier Py autant que ses grandes réussites, parce que ce sont les échecs de quelqu'un qui cherche, de quelqu'un qui s'interroge tout le temps, de quelqu'un qui est tout le temps dans la passion. Il y a tellement de carrières finalement qui sont lisses, à un très haut niveau, mais lisses, et cet homme qui cherche tout le temps et qui parfois peut se planter sur quelque chose, bah, j'aime ça aussi.
Oui, mais alors là, pour les dialogues, là...
Il ne
s'est pas planté du tout. C'est peut-être... vous avez eu l'occasion de discuter avec lui mille et mille fois, j'imagine, mais comment, dans son parcours, il qualifie cette production ?
Alors, c'est une œuvre qui l'accompagne depuis très, très longtemps. Et Vetz aussi. C'est des œuvres qu'ils ont écoutées adolescents et qui sont très importantes dans leur parcours. Et pour le coup, Olivier me disait hier qu'il était très heureux de l'avoir abordé tard, en quelque sorte. Ouais. D'avoir attendu autant de temps pour, enfin, mettre en scène Dialogue des Carmélites. Et il en était très heureux de ne pas l'avoir fait il y a 20 ans. Et je crois qu'il aime lui-même sa production. Il l'a,
parce que j'imagine, il y a 20 ans, il n'aurait pas abordé pareil. C'est certainement sûr.
Il l'aborde justement là avec une décantation, oui, et une simplicité absolue.
Bien sûr, oui. Et une profondeur de ton. Absolument. Mais incroyable.
Mais je crois que c'est une œuvre qui le porte autant que lui la porte. On peut dire ça sans vouloir faire une pirouette. Pour illustrer tout ce que vous venez de dire l'un et l'autre, et pour que nos auditeurs puissent prendre la mesure de la grandeur que la musique de Poulenc donne à cette histoire, déjà très puissante en elle-même, je propose qu'on écoute un extrait du final de l'opéra de Francis Poulenc. C'est le Salve Regina, ce moment terrible de la montée à l'échafaud pour les Carmélites. Le Salve Regina de Dialogue des Carmélites, scène finale de l'opéra de Francis Poulenc avec ses brusques percussions dont je vous laisse imaginer ce qu'elles peuvent symboliser. Dans la production créée au Théâtre du Capitole, c'est donc encore la mise en scène d'Olivier Py, mais qui dit nouvelle production dit nouvelle distribution, et c'est Anaïs Constant qui va interpréter le rôle magnifique mais ô combien central et pesant de Blanche de la Force. On s'en réjouit bien sûr parce qu'elle est de Montauban, parce qu'elle a été formée au Conservatoire de Toulouse et avant tout parce qu'elle a du talent. Mais il faut avouer que c'est quand même un sacré défi à relever pour elle. Alors, comment se sont passées les répétitions et comment la sentez-vous, si je puis dire un peu prosaïquement, comme vous la sentez avant de monter sur scène?
Tout à l'heure, on en a parlé, je vous ai dit un mot, je le répète, elle est surnaturelle pour moi. Depuis le premier jour, depuis la première répétition musicale, alors évidemment, ça a encore développé, ça a encore mûri. Mais dès le premier mot, elle est surnaturel. C'est un grand défi pour elle, c'est un rôle difficile et voilà.
Oui, et puis c'est un magnifique tremplin, je pense, pour elle, pour la suite de sa carrière, un rôle tel que celui-ci. Robert Pénavert, vous la connaissez quand même un peu, Anaïs Constant, vous l'avez vue quelques fois sur scène.
Oui, tout à fait, mais au Théâtre du Capitole, la dernière fois, je pense que c'est à Michaela,
oui.
Voilà, c'est ça, voilà. Moi, je lui souhaite vraiment de réussir, parce que tous les rôles sont importants. Mais effectivement, et nous en parlions off tout à l'heure, tous les autres rôles ont de grandes scènes, extrêmement écrites, bon, voilà. Elle, non, elle passe un peu comme une funambule, mais elle a toujours des choses importantes à dire, mais sans éclat, sans... C'est un rôle extrêmement difficile, pas forcément vocalement à chanter, mais dramatiquement.
Mais bien sûr.
C'est très, très difficile à faire. Donc, évidemment, je croise les doigts, je touche du bois, je pense fort à elle parce qu'elle est toute jeune et c'est un énorme challenge, mais je n'imagine pas une seconde que Christophe Christy lui aurait confié s'il n'avait pas confiance en elle.
Qui sont les autres chanteurs et surtout chanteuses dans la distribution? On va retrouver un certain nombre de têtes et de voix bien connues au Théâtre du Capitole.
Bah, vous savez, en fait, on se rend pas compte, mais on crée toujours une troupe, une famille. Donc, on a la grande chance d'avoir Anaïk Morel, qui nous a sauvés l'année dernière pour le componiste d'Ariane Anaxos, là, qui chante Mère Marie.
Avec un magnifique compositeur d'Ariane Anaxos, oui, Anaïk Morel.
Et là, Mère Marie, c'est un rôle qui lui va merveilleusement. Il y a Catherine Hunold qui chantait Ariane à ce moment-là, qui chante Madame Lidoine. Il y a Janina Bechley qui était dans Ariane et Barbe Bleue, qui chante La Première Prière. Jody DeVos, là, qu'on n'a pas beaucoup vu au théâtre, et qui fait sa première Constance. Jody DeVos, c'est une soprano très recherche aujourd'hui, qui a fait un merveilleux disco Offenbach il y a quelques mois. Thomas Bettinger, qui est un formidable jeune ténor français, qui chante aussi son premier Chevalier. Il y a quatre prises de rôle dans la distribution. Bah, ça fait partie de notre mission, hein, ça fait partie de notre boulot, de faire confiance aux chanteurs et de leur donner des nouveaux rôles et de nouvelles étapes dans leur carrière. Et on a la chance d'avoir un grand baryton, Jean-François Lapointe, pour le rôle bref mais essentiel du père, et Jean-François Verdier, qui dirige ses représentations. Et je voudrais dire aussi, dans beaucoup de petits rôles, nos artistes du chœur, qui sont vraiment absolument magnifiques, extrêmement engagés. Ça fait toujours très plaisir. Ce sont des grands musiciens et donc ils sont vraiment une des âmes de cette production.
Et très impliqués, comme on vient de le comprendre à ce que vous disiez. Alors vous, Robert Pénavert, cette distribution, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale? Tout y est, tous les ingrédients y sont.
Ah oui, tout y est, oui, absolument.
Maintenant, il faut y aller, tout simplement.
Ah oui, voilà. Ça. Ceux qui n'iront pas sont absolument impardonnables à jamais. Voilà.
Alors...
Je suis d'accord.
Ceux qui sont impardonnables aussi, c'est ceux qui ne font pas de dons pour Radio Présence. Donc, je fais un nouvel appel aux dons. Un seul numéro pour cela, le 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. En ligne aussi sur le site de Radio Présence, www.radioprésence.com. Pour ceux qui préfèrent utiliser ce moyen, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais dire qu'on a la grande chance, et je ne sais pas si c'est une raison supplémentaire de venir, c'est que dans le foyer, le grand foyer du Théâtre du Capitole, nos spectateurs pourront admirer, on peut le dire comme
oui,
ça,
oui, important,
le manuscrit de Dialogue des Carmélites, ce qui n'est pas rien.
Pas rien, non.
Ce manuscrit, il est constitué de quatre grands cahiers, donc écrits de la main de Poulenc, et il est conservé au Palais Garnier, dans la bibliothèque musée de l'Opéra. Et nous entamons une collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, qui donc a déposé pendant les deux semaines des représentations ce manuscrit chez nous. Et donc on pourra admirer les cahiers de Poulenc. Évidemment, ces quatre cahiers sont ouverts. Le premier est ouvert à la page de la dédicace, qui est aussi une chose déjà bouleversante à lire. Et ce que dit Poulenc de sa propre œuvre est absolument incroyable. Et évidemment, aussi les dernières pages avec la mort de Blanche. Donc ça, c'est un magnifique objet. J'étais très ému la première fois que je l'ai vu. Et qu'on pourra admirer dans le foyer.
J'imagine. Voilà, une raison de plus d'aller au Théâtre du Capitole. Alors, je disais en début d'émission que ce week-end des 23-24 novembre à Toulouse était marqué du sceau de la littérature et de la mystique dans le domaine musical. Et la raison en est qu'outre dialogue des Carmélites au théâtre du Capitole, il y a aussi la création mondiale de l'Annonce faite à Marie, l'opéra que Marc Bleuze a composé sur le texte de la célèbre pièce éponyme de Paul Claudel. Il y a deux représentations samedi et dimanche à 20h. C'est une création dont on ne peut pas dévoiler beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour leur donner envie d'aller découvrir cette œuvre?
Déjà, la création d'un ouvrage est toujours une chose excitante. Il faut en plus toujours aiguiser sa curiosité. Marc Bleuze, c'est un grand musicien. Il se trouve qu'il a été directeur du conservatoire, mais c'est pas ça qui est important, c'est que c'est un grand musicien. Il a apporté vraiment, lui-même le dit, toute sa vie, cette adaptation pour l'opéra du chef-d'œuvre de Claudel. Donc voilà. Et c'est déjà des textes sont d'une telle ampleur et d'une telle portée. Bon, il se trouve que c'est vrai que ça tombe en même temps. C'est les deux frères ennemis, Bernanos et Claudel le même week-end.
Ils avaient quelques dissensions, quoi. C'était des personnalités très différentes. Hein, voilà.
Mais enfin, personnellement, moi, je les adore tous les deux. C'est deux écrivains incroyables, sublimes tous les deux. Donc voilà, de ce que je sais de cette création, je ne peux que conseiller de...
Alors on peut dire qui va la diriger, qui la met en scène et qui va faire la partie musicale. Alors à la direction, c'est Pierre Bleuze, le fils de Marc. Donc là, ça reste absolument en famille, donc il ne devrait pas y avoir de problème.
Qui est un formidable chef d'orchestre. C'est Jean-François Gardeil, chanteur qu'on connaît bien, qui fait la mise en scène. Et une très belle distribution avec Philippe Estève, jeune baryton français formidable, Pierre-Yves Pruvot, Sarah Lolland, Clémence Garcia, Lionel Sarrazin, vraiment une belle équipe. Et puis autour d'eux, il y a Les Sacs Boutiers, il y a un quatuor à cordes, enfin, tout un bel ensemble de musiciens.
Donc le trip mystique, ce sera surtout dimanche, hein, puisque dimanche à 15h, il y aura la deuxième représentation de Dialogue des Carmélites. Et puis à 20h, vous pouvez aller découvrir l'Annonce faite à Marie à Saint-Pierre-des-Cuisines. Attention, c'est à Saint-Pierre-des-Cuisines. Claudel appelait Bernanos l'athlète de Dieu. Là, il faut être un athlète de la musique et donc il faudra courir du théâtre du Capitole à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Vous avez 2 heures entre la fin des Carmélites, dure 3 heures, entre actes compris. Et donc vous avez 2 heures pour prendre la bagaminière.
Vous pouvez souffler quand même. Mais franchement, je crois que ça vaut le coup d'enchaîner les deux.
Oui, alors en parlant de week-end mystique, si vous permettez, parce qu'en fait, il y a un troisième rendez-vous, mais celui-ci nous vient de New York. Donc, vous savez, dans le cadre de retransmission du Metropolitan Opera, chaque année, il y a un opéra contemporain. Et cette année, c'est Akhenaton. Et Akhenaton, vous savez, c'est ce pharaon mystique, etc., etc., qui a en fait inventé un peu le monothéisme. Hein. Et c'est celui-là qui est diffusé dans les cinémas Gaumont samedi soir en direct du Métropolitain dans une somptueuse mise en scène de Féline Mardermott qui vient de l'Église nationale opéra. Voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir un week-end complètement mystique, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut.
Vraiment être athlète de Dieu. Là, hein. Donc, là c'est à 18h55 au Gaumont-la-Bèze. Hein. Et Wilson, il nous reste encore quelques minutes. Et comme on a la chance de vous avoir, Christophe Vesti, je vais annoncer le midi du Capitole que donne Janina Bechler. Jeudi 28 novembre à 12h30, je vais vous laisser nous présenter le programme qu'elle va chanter jeudi prochain.
Écoutez, c'est un programme fait sur mesure pour ces concerts de midi, hein, qui sont réguliers, qui ont du succès, ça je m'en réjouis, qui sont ouverts à tous, il faut le rappeler, au prix de 5 euros. Et on a des grands chanteurs qui viennent les chanter, qui viennent quasiment gratuitement, c'est des gens qui ont l'amour de leur métier et de la communication pour chanter pour le public. Donc là, il y aura Kurt Weill, Reynaldo Hahn, Poulenc...
Claude Debussy.
Claude Debussy qui est un des 4 compositeurs. En fait, Poulenc a dédié les Carmélites à 4 compositeurs. Et évidemment, donc Debussy en fait partie, mais c'est intéressant. En écoutant, on peut trouver les 3 autres.
Voilà. On ne va pas donner la réponse, il faudra aller au théâtre
pour le découvrir.
Voilà, donc je précise que Janina Bechler sera accompagnée par Anne Le Bozec, excellente pianiste, merveilleuse accompagnatrice qu'on connaît bien dans la région. On va profiter des quelques instants qui nous restent pour écouter Janina Bechler dans cette merveilleuse mélodie de Reynaldo Hahn que nous adorons tous, à Chloris.
Oh,
Chloris, mélodie de Reynaldo Hahn sur un poème de Théodore Deviaux chanté par Janina Bechle, qui donne son récital jeudi 28 novembre à 12h30, accompagné au piano par Anne Bozek dans le cadre des Midis du Capitole. Avant de conclure cette émission, je refais un appel à votre générosité puisque notre Radio Don touche à sa fin. Radio Présence a besoin de votre soutien financier pour fonctionner et pour continuer de vous proposer des émissions telles que Mélomanie. Je rappelle que vos dons sont déductibles à hauteur de 66% de la somme versée. Autrement dit, donner 300 euros ne vous coûtera en fait que 100 euros. Donner 90 euros ne vous coûtera que 30 euros. Je vous invite à appeler le 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 pour faire vos promesses de dons ou à faire un don en ligne en vous connectant au site internet de Radio Présence www.radioprésence.com. Fin de ce numéro de Mélomanie auquel je remercie mes amis Serge Chosy et Robert Pénavert d'avoir participé avec leur brio habituel et bien sûr tous mes remerciements à Christophe Gresti d'être venu nous voir et d'avoir présenté à nos côtés les trois événements de la semaine au Théâtre du Capitole. D'abord, Dialogue des Carmélites, l'opéra de Francis Poulenc, dans la mise en scène d'Olivier Py, mais avec une nouvelle production dans laquelle la montalbanaise Anaïs Constant va tenir le rôle de Blanche de la Force. Après la première ce vendredi 22, il va y avoir encore quatre représentations, les 24, 26 et 29 novembre, ainsi que le 1er décembre. D'autre part, à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est samedi 23 et dimanche 24 novembre à 20h. Création mondiale de L'Annonce faite à Marie, opéra de Marc Bleuze d'après la pièce de Paul Claudel, sous la direction de Pierre Bleuze, le fils du compositeur. Et enfin donc, jeudi 28 novembre à 12h30, Midi du Capitole avec un récital de la mezzo-soprano Janina Bechle, accompagnée par la pianiste Anne Bozek pour un programme de mélodies de Reynaldo Hahn, Claude Debussy, Francis Poulenc et des airs de Kurt Weill. Pour ces trois spectacles, vous pouvez avoir tous les renseignements nécessaires, faire vos réservations et acheter vos places en ligne en vous connectant au site www.théâtreducapitole.fr. Et puis je rappelle que la 5e édition du festival Musique au Palais a lieu aussi, c'est samedi 23 et dimanche 24 novembre, ça se passe les après-midi dans le grand salon du Splendide Paléniel de Toulouse. 5 concerts dédiés au romantisme allemand et vous pouvez avoir le détail de la programmation et réserver vos places sur le site www.musicaupalais.org. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles. Je vous souhaite une excellente semaine musicale à tous.